Je remercie d'emblée très vivement les deux orateurs qui ont bien voulu venir parler aujourd'hui de l'impact des ordonnances rendues par le Conseil d'État dans ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné au mois de janvier dernier sur les libertés. Camille Broyel, professeur dans cette université, qui s'exprimera en premier et nous donnera une vision de ces décisions plutôt administrativistes et plutôt satisfaites des ordonnances, malgré l'émission de quelques réserves sur quelques points. Et ensuite, Denis Barranger, également professeur dans cette université, qui présentera ses ordonnances dans une vision peut-être moins strictement administrativiste et plus en rapport avec l'organisation des libertés en France.
Et Olivier Beau.
Et Olivier Beau, peut-être, aura des choses à ajouter. Donc, il reste d'autres fauteuils, selon la technique.
Technique
Olivier Beau. Alors, je vais dire quelques mots pour resituer l'affaire Dieudonné et replacer les ordonnances en cause dans le contexte du mois de janvier. Donc on a trois décisions qui ont été rendues successivement par le Conseil d'État dans le cadre du référé liberté article L521-2 du Code de justice administrative, les 9, 10 et 11 janvier dernier. Décisions qui sont à peu près sur la même ligne, même si on peut noter d'une ordonnance à l'autre une évolution, la troisième étant en plus dans un contexte légèrement différent, puisque l'auteur du spectacle incriminé avait annoncé depuis la veille qu'il remanierait sensiblement son spectacle. Bon. La question qui était posée, et notamment lors de la première manifestation, donc le premier spectacle à Nantes, c'était la question de savoir si le préfet ou le maire avait pu interdire le spectacle qui devait se dérouler donc le jour même. Enfin, il avait rendu son arrêté d'interdiction du spectacle deux jours plus tôt. Le tribunal administratif de Nantes, statuant de mémoire le jeudi 9 janvier, à peu près en début d'après-midi, rend une ordonnance dans laquelle il considère, en appliquant, me semble-t-il, la jurisprudence habituelle sur le contrôle des mesures de police, il considère donc que cet arrêté d'interdiction du spectacle doit être suspendu. Le ministre de l'Intérieur fait aussitôt appel de cette ordonnance et elle est portée devant le Conseil d'État dans l'après-midi même. Et après une audience publique qui s'est tenue, je crois, vers 17h, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, statuant en tant que juge des référés du Conseil d'État, est rendue vers 18h30, donc peu avant la tenue prévue du spectacle en question. Et l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État va aboutir à, en réalité, l'annulation de la suspension et donc le retour en vigueur, si j'ose dire, de l'arrêté d'interdiction du spectacle, arrêté donc qui interdit que le spectacle de Dieudonné se tienne à Nantes le jeudi soir. Le lendemain, le même individu devait se produire à Tours, rebelote, de nouveau arrêté d'interdiction, de nouveau contestation, mais cette fois-ci, on est dans la juridiction administrative. Lorsque le Conseil d'État a dit quelque chose, les juridictions du fond suivent aussitôt le doigt sur la couture du pantalon. Le tribunal administratif d'Orléans va rejeter le recours contre l'arrêté d'interdiction. L'appel est donc fait cette fois-ci par l'intéressé, la société de production de ces spectacles. Et l'appel est rejeté devant le Conseil d'État, donc le vendredi 10 janvier, toujours par le président de la section du contentieux, avec, dans la nuit, sans doute la nuit portant conseil, quelques améliorations, peut-être quelques corrections apportées à l'ordonnance rendue la veille. Le samedi, alors qu'après deux arrêtés d'interdiction de son spectacle, Dieudonné avait dit « bon, mais j'arrête de vouloir tenir les mêmes propos que ceux que j'avais tenus antérieurement. Je vous promets qu'il n'y aura plus rien d'antisémite dans mon spectacle. Malgré tout, ça ne suffit pas. Il devait se produire à Orléans. De nouveau, arrêté d'interdiction. De nouveau, le tribunal administratif d'Orléans qui rejette le recours contre l'arrêté d'interdiction. Et de nouveau, procédure devant le Conseil d'État. Cette fois-ci, c'est un des présidents adjoints de la section du contentieux qui a rendu l'ordonnance du samedi, dans un contexte qui était un petit peu différent, puisque là, l'auteur du spectacle incriminé avait dit « il n'y aura plus rien de répréhensible dans mes propos ». Malgré tout, l'arrêté d'interdiction est maintenu par le rejet du recours contre l'ordonnance rejetant le recours initial. Voilà les trois décisions rendues. Alors, indépendamment du contexte, indépendamment évidemment de tout ce qu'on peut penser du spectacle en question, ce qui a évidemment retenu l'attention dans cette affaire, ce sont à la fois les dispositifs des ordonnances rendues et les motifs de ces ordonnances. Dispositifs donc qui aboutissent dans les trois cas à admettre la légalité, ou plutôt l'absence d'illégalité manifeste, parce qu'on est dans le L521-2, des arrêtés d'interdiction du spectacle budgétonné, et motif, alors là, c'est là où on voit l'évolution de la motivation entre les trois ordonnances, sachant que c'est peut-être la première ordonnance qui a retenu le plus l'attention, toute une série d'éléments qui ont particulièrement retenu l'attention, on va dire, pour venir à l'appui de la décision du juge des référés du Conseil d'État, notamment le fait que le Conseil d'État s'appuie à la fois sur la nécessité de protéger la dignité de la personne humaine et d'autre part ajoute qu'il est parfaitement compatible avec l'exercice du pouvoir de police administrative d'entendre réprimer la commission probable d'infraction pénale et puis en rappelant le passé pénal Monsieur Dieudonné. Voilà les quelques mots que je voulais donner pour resituer le contexte à la fois juridique et matériel de ces affaires. Je vais, sans attendre, donner la parole à Camille Royel pour qu'elle nous donne son point de vue sur ces trois ordonnances.
Merci beaucoup. Merci à Bertrand Seyé d'avoir organisé cette table ronde. En général, c'est une formule de politesse, mais... Je suis vraiment très contente parce qu'on a croisé le fer, lui et moi, à chaud sur ces ordonnances, au sujet de ces ordonnances qui, elles aussi, sont rendues à chaud. Ces ordonnances, c'est le principe des ordonnances, enfin de l'office du juge des référés. Et je suis très heureuse de l'occasion qu'il m'offre d'en discuter plus sereinement, pas totalement à froid, mais disons avec un peu plus de distance. Et très heureuse aussi que s'agrège à la conversation le professeur Barranger qui donne. Oui, c'était effectivement l'objet de ce message. Donc, qu'il participe à la conversation pour lui donner, j'allais dire, de la hauteur. Mais je ne veux pas dire non plus que le débat était jusqu'à présent ras des pâquerettes. En tout cas, pour enrichir les débats et lui donner, leur donner son. À ces débats, son point de vue spécifique. Même si j'espère, je l'espère, et je l'encourage à le faire, Bertrand Seyé ne se retirera pas du débat au nom de son statut d'arbitre, parce que rien ne dit nulle part. J'ai vérifié qu'un organisateur de table ronde ne pouvait pas également être parti à la discussion. Donc, très contente d'en discuter plus sereinement, deux mois après, et d'une certaine façon, la discussion que nous allons avoir aujourd'hui, elle simule, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, elle simule les débats qui auraient pu se tenir, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi, les débats qui auraient pu se tenir sur le fond si le juge du fond avait été saisi. Il ne l'a pas été, donc on ne saura jamais... aurait été la position du Conseil d'État, du juge administratif de première instance et ensuite, on l'espère même que ça serait remonté au Conseil d'État sur cette solution et c'est ce que l'on regrette. Et je voudrais insister d'emblée sur ce point qui me semble essentiel, sur le fait que la solution qui a été adoptée par le Conseil d'État, elle a été rendue dans le cadre de procédures de référé. C'est-à-dire non seulement, bien sûr, je viens de le dire, à chaud, dans l'ébullition frénétique qui régnait alors en plus, et à chaud, mais aussi selon une grille de contrôle tout à fait spécifique. Le Conseil d'État n'a pas dit les juges des référés du Conseil d'État n'ont pas dit que les décisions d'interdiction du spectacle mur étaient légales, ils ont dit qu'elles n'étaient pas manifestement illégales, ce qui est très différent. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce type de débat est intéressant, parce que, alors non seulement pour nous d'en discuter, mais pour le juge, c'est intéressant, parce que si jamais l'occasion devait se présenter un jour de nouveau, une affaire de ce type devait il devait en être saisi, il disposerait non seulement d'argumentaires contrastés, qui stimuleraient, je l'espère peut-être, sa réflexion, mais surtout il pourrait mesurer l'accueil réservé à telle ou telle solution. Donc il y a peu de moments où on a le sentiment d'être un petit peu, où la doctrine universitaire a le sentiment d'être un peu utile. Et peut-être que c'est un moment comme celui-ci. Alors, donc, on ignore, j'insiste sur ce point, on ignore ce que serait, qu'aurait été la position du Conseil d'État, parce qu'une chose est de dire que l'interdiction du mur n'est pas manifestement illégale, et une autre est de dire qu'elle est légale. Et ça me semble évident que le passage de l'un à l'autre, du manifestement illégal au légal, est loin d'être évident. Alors, ces remarques liminaires sont nécessaires, je crois, pour cadrer la discussion. C'est-à-dire, et c'est ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire, je voudrais cerner ce qui, selon moi, devrait constituer le noyau dur d'un débat sur le fond. Donc, ça nécessite de ma part, c'est ce que je me propose d'effectuer un tri parmi les critiques que je trouve injustifiées, et je trouve que beaucoup de critiques sont injustifiées, et celles qui, au contraire, méritent attention, toutes méritent attention, d'ailleurs je vais leur prêter attention, mais celles qui devraient être retenues pour une discussion sur le fond, justement, en imaginant que cette discussion se tienne. Et donc, en gros, j'aimerais cerner ce qui grince dans cette décision et ce qui, selon moi, ne grince pas. Alors, ce qui grince, je le dis d'emblée, pour moi, ce qui grince, c'est l'affirmation, alors, ce n'est pas affirmé telle quelle, c'est la règle latente, il ne s'agit pas d'une règle, c'est une procédure de référé, mais qui pourrait être consacrée, selon laquelle l'autorité de police administrative pourrait intervenir pour prévenir une infraction déterminée sur le point d'être commise. Ce n'est pas ce que dit la décision. Mais pour moi, c'est ça le nœud du problème. Je comprends que ça choque. Je n'ai pas de... ça présente un intérêt très modéré pour l'auditoire ici, mon opinion personnelle, mais je dis quand même que je n'ai pas de religion sur cette question-là, et je comprends qu'elle choque. Le reste, les autres critiques, je les trouve contestables. Alors, j'en viens aux critiques que je commence plutôt aux critiques que je trouve injustifiées. Alors, bon, il y a les grosses critiques injustifiées, les critiques grossièrement injustifiées, ou bien des critiques qui, sans être grossièrement injustifiées, stérilisent tout le débat. La critique, c'est la première d'entre elles, c'est celle de la partialité du juge. Alors, cette critique, elle est déclinée sous deux angles, un angle un peu lourd et un angle plus subtil. L'angle un peu lourd consiste à dire... Et je n'ai pas entendu de juriste la tenir, donc elle consiste à dire oui, le calendrier procédural, c'est louche, le Conseil d'État a statué ultra rapidement, en fait c'est vrai, il a statué extrêmement rapidement, c'est tout à fait suspect, c'est le signe d'une instrumentalisation du calendrier préfectoral, en réalité le Conseil d'État, le juge des référés du Conseil d'État voulait tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à ce spectacle et l'interdire, y faire obstacle. Bon, je ne ferai pas justement injure à cet auditoire pour répéter, mais bon, je me sens tenue de le faire quand même, que c'est un juge des référés, il exécute, il remplit correctement son office en statuant avec diligence. Et de fait, là, le cas est assez extraordinaire. Il est saisi à 14h. Hein, c'est ça, 14h ? Non, le tribunal administratif rend son ordonnance à 14h. Bon, à mon avis, ça a dû aller assez rapidement. Il est saisi, mettons, à 14h07. À 14h07, l'instruction est ouverte. L'ordonnance est rendue 18h-18h30 pour un spectacle qui va se tenir le soir à 20h-20h30. J'ai Bah, immédiatement. Bon. Évidemment, le calendrier était extrêmement serré. Bon, alors on peut dire, oui, tout ça, c'est effectivement de la manipulation. En réalité, le juge était partial. C'est une réflexion qui n'a pas grand intérêt, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ben voilà, on ferme le débat et puis on n'a plus de discussion à mener sur le fond, sur ces ordonnances. Donc je l'écarte. J'écarte aussi une deuxième critique plus subtile, qui est elle aussi d'ordre procédural et qui est plus intéressante. Alors ça nous éloigne un tout petit peu du vrai nœud du débat que j'aimerais saisir, mais j'aimerais quand même en parler. Je l'ai entendu dire, je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu dire. Ça consiste à dire, oui, mais concrètement, vu le battage médiatique qui a entouré l'affaire Dieudonné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'entendait parler que de l'affaire Dieudonné et du président de la République sur une mobilette. C'était les deux seuls événements qui mobilisaient l'attention. Et donc, concrètement, il est certain qu'on peut l'imaginer, les juges se sont dit que l'ordonnance du ministre de l'Intérieur allait donner lieu à des mesures d'interdiction. On peut même imaginer qu'ils se sont dit, ils ont anticipé ce que serait éventuellement leur saisine et se sont dit comment je jugerai. Ils ont commencé à bâtir en amont la décision. Et donc la critique consiste à dire, oui, il y a eu méconnaissance, l'ordonnance était déjà rédigée, il y a eu méconnaissance de l'instruction et surtout du caractère contradictoire. Enfin, il n'y a pas eu méconnaissance du caractère contradictoire. On a neutralisé le caractère contradictoire. Il pouvait dire ce qu'il voulait, en gros, Dieudonné, pendant l'audience. De toute façon, les jeux étaient faits. Alors, ça aussi, c'est une critique, je crois, dont il ne faut pas tenir compte, non seulement parce qu'elle empêche tout autre débat une fois qu'on l'admet. Et puis, en plus, alors ça, c'est pour ça que ça ne nous concerne pas beaucoup, mais j'aimerais quand même le dire, en plus, je trouve que c'est bien que le juge anticipe les décisions. Je trouve que c'est bien qu'il commence, avant d'ouvrir la porte d'audience, de se faire une idée, des idées, voire de se faire une idée de la solution qu'il adopterait. Pour moi, c'est de l'échauffement intellectuel. C'est au contraire extrêmement satisfaisant. Tout ce qu'il faut, en revanche, c'est que le juge soit dans un état d'esprit lui permettant de défaire radicalement tout ce qu'il a construit en amont. Et ça, je suis désolée, c'est le travail du juge. Et on n'a pas de raison d'imaginer que les juges des référés, tous les juges des référés qui ont été conduits à se prononcer sur cette affaire dans toutes ses dimensions, on n'a aucune raison de penser qu'ils ont été dans une position intellectuelle autre que celle dans laquelle ils doivent être. Bref, j'en viens au fond. Quels sont les motifs avancés par les ordonnances de référé du Conseil d'État pour dire que les mesures d'interdiction n'étaient pas manifestement illégales? Trois motifs. En réalité, l'ordonnance du 9 janvier, Bertrand Seillet l'a rappelé, trois ordonnances, l'ordonnance du 9, du 10 et du 11. L'ordonnance du 10 et du 11 sont beaucoup moins motivées que l'ordonnance du 9. Et d'ailleurs, on en discutera, mais par un curieux retournement des choses, on se dit que... on reviendra là-dessus, sur le fait que c'est plus confortable pour le juge de moins motiver, finalement, que de surmotiver, parce qu'il donne prise à la critique. Et c'est un peu la cruauté de la motivation. Donc l'ordonnance du 9 janvier, elle, pour dire que l'interdiction n'est pas manifestement illégale, s'appuie sur trois motifs susceptibles... Enfin, qui ne sont pas manifestement insusceptibles de fonder une mesure de police, qui sont l'ordre public matériel, l'atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et la prévention de la commission d'une infraction pénale. Je le dis de façon un peu ramassée parce que les formules employées sont beaucoup plus nourries. Les ordonnances du 10 et du 9, elles, ne retiennent que, aussi dans une formule plus nourrie, plus étoffée, l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Bon, je simplifie pour l'instant comme ça les choses. Reprenons ces trois motifs. Le risque de trouble à l'ordre public matériel. Alors, le tribunal administratif de Nantes, donc qui existe, ce motif existe dans l'ordonnance du 9 janvier, elle est absente, et dans l'ordonnance du 10 et dans celle du 11. Ce trouble, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait considéré qu'il pouvait être surmonté.
Le Conseil d'État, lui, dit que non. Je cite, « La réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique. » Alors, beaucoup disent qu'en réalité, ce n'est pas vrai, que ces troubles n'existaient pas. Je n'ai pas de raison, pas vu les pièces de dossier, je n'ai pas de raison d'en douter. Je voudrais juste rappeler une chose, et là aussi, je vais dire des choses, des banalités, c'est que cette condition, le trouble à l'ordre public matériel qui justifie l'intervention de l'autorité de police, c'est la plus ancienne, elle est consacrée dans l'arrêt Benjamin, et c'est souvent, on y voit souvent, on dit souvent que c'est une condition objective et qu'on devrait toujours, l'autorité de police devrait toujours s'en tenir à cette seule condition, le risque de trouble à l'ordre public matériel, parce que c'est objectif, et que cela évite de glisser vers la pente, consistant à permettre au juge de permettre au nom à l'autorité administrative de police d'intervenir au nom de la moralité publique. Bon, très bien, ça c'est sûr. Il reste que dans des contextes comme ceux de l'affaire Dieudonné, et ce sont des choses connues, mais l'affaire Dieudonné le montre bien, cette condition, c'est la prime aux casseurs, très clairement. C'est-à-dire que c'est pour obtenir une mesure d'interdiction, il faut surenchérir dans la menace de violence ou dans la violence tout court. Alors, il est vrai, évidemment, ce n'est pas très satisfaisant. Alors, il est vrai que l'autre exigence, celle du caractère proportionné de la mesure de police, impose à l'administration de ne pas céder au chantage et de contenir la violence. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'insatisfaisant dans cette condition, dans ces contextes-là particuliers. Quoi qu'il en soit, si le trouble à l'ordre public matériel est invoqué dans l'ordonnance du 9, il n'existe pas, ce risque de trouble, il n'est pas invoqué ni dans celle du 10 ni dans celle du 11, donc on comprend on en conclut que l'interdiction peut ne pas être manifestement illégale, alors même que n'existe pas un trouble à l'ordre public matériel. Et de fait, même dans la décision, dans l'ordonnance du 9 janvier, d'autres motifs sont invoqués. Les deux autres, la dignité, donc, et l'autre, c'est l'autre motif, c'est la prévention de la commission d'une infraction pénale. La dignité de la personne humaine. Alors, c'est la partie de la décision qu'il énonce, qui a été pas la plus critiquée, parce que l'autre a été quand même aussi pas mal critiquée, mais qui a été très critiquée. Pour moi, c'est le passage le plus solide de cette décision. Elle a été très critiquée, alors c'est là que la motivation se retourne contre le juge, parce qu'on sent que le juge des référés du Conseil d'État a multiplié les arguments. Alors je cite quand même la façon dont il invoque, il ne s'est pas contenté de dire l'atteinte au respect de la dignité de la personne humaine justifie l'intervention de l'autorité de police. Non, il va beaucoup plus loin, il dit au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevée lors des séances tenues à Paris, ces propos ne seraient pas repris à Nantes, ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine. C'est fourni comme justification. Bon. Alors, la dignité, tout le monde le sait, et de nouveau, je cesse de dire, mais pardon de répéter des choses très connues, c'est cette qualité dont tout homme est doté du fait de sa qualité d'humain et dont tous les hommes sont également dotés et que le droit protège. Bon. Et toute la question à propos de la dignité est de savoir à qui on peut l'opposer et dans quelles conditions. Alors, et c'est là que deux écoles, c'est aussi très connu ce que je vais dire, deux écoles se distinguent, une école libérale, une école paternaliste. L'école libérale consiste à dire que la dignité sert uniquement à protéger les personnes contre l'intrusion d'un tiers à laquelle cette personne atteinte ou un groupe de personnes ne consent pas. Donc on protège une personne de l'intrusion d'un tiers, bon, qui constitue une atteinte à sa dignité. Ça, c'est le versant libéral. Le versant paternaliste, et disons-le clairement anti-libéral, consiste à dire la dignité, c'est une qualité qui peut être opposée à une personne dont le comportement librement décidé est considéré comme attentatoire à sa propre dignité. Et c'est à ce second versant que se rattache la décision Morsan sur Orge du Conseil d'État, qui, dans laquelle il avait interdit au requérant, à l'intéressé, un nain, de se faire projeter dans un spectacle de lancer de nains. Et autrement dit, le Conseil d'État déniait dans cette affaire à l'intéressé, il lui déniait toute capacité d'autodétermination au nom de la dignité, c'est-à-dire qu'il lui déniait sa qualité d'humain au nom de la dignité de la personne humaine. Qualité d'humain qui est celle qui implique l'autodétermination. Donc en gros, il dit « je vous impose le respect de votre dignité, c'est-à-dire de ce standard de comportement que je tiens pour constitutif de l'être humain. » Bon. Alors évidemment, ce n'est pas à cette conception paternaliste de la dignité que se réfère le Conseil d'État dans les ordonnances Dieudonné, mais il se réfère à la première conception libérale de la dignité. Il considère, il protège une communauté des propos de Dieudonné. Alors, une communauté, je ne suis pas certaine d'ailleurs que ce soit, on en discutera peut-être, je ne suis pas certaine si ce soit une communauté, puisque précisément il s'agit de dignité et qu'à travers la dignité, c'est la collectivité tout entière qui est protégée. Mais bon, ça, on peut évidemment débattre dessus. Donc, c'est ce versant libéral-là de la dignité qui est retenu dans les ordonnances Dieudonné. Et de ce point de vue-là, la mention dans les visas des ordonnances de la décision Morsan sur Orge, elle est trompeuse. Elle conduit à une fausse paternité, parce que l'utilisation de la dignité dans Morsan sur Orge, ça n'a rien à voir. Bon. Alors, cela dit, ce n'est pas parce que le Conseil d'État utilise une notion libérale que n'existe pas de risque liberticide. Et j'admets tout à fait que la dignité est une notion tellement floue qu'on peut y mettre n'importe quoi et que celui qui la manie, le juge en l'occurrence, peut au nom de la dignité interdire tout comportement, tout type de comportement et d'activité sociale. Donc la question, une fois, c'est déjà une chose de faire une utilisation libérale de la notion de dignité, mais encore faut-il que le contour de cette dignité soit un peu tenu, que ce ne soit pas la porte ouverte à tout, que ce soit contenu. Alors, est-ce que ça... Alors justement, c'est ce qu'on a critiqué dans les ordonnances Dieudonné. Oui, la dignité, la cohésion nationale, c'est flou, c'est fourre-tout. C'est le juge qui impose son propre ordre moral et c'est le règne du politiquement correct. Alors, là, je suis en radicale opposition. Si le Conseil d'État tient ses propos pour attentatoire à la dignité, ce n'est pas au nom de son propre code de conduite de la dignité, enfin son propre code de conduite de l'homme, de ce qui constitue l'homme digne, mais c'est au nom de la loi. C'est au nom, il se réfère à la dignité telle qu'elle a été dessinée par le législateur qui a incriminé les propos d'incitation à la discrimination et à la haine. C'est à ça que fait référence le Conseil d'État. Et donc, cette dignité qui imposerait de ne pas tenir des propos d'incitation à la haine ou à la discrimination, cette conception-là, cette prohibition, elle n'est pas inventée par le Conseil d'État. Elle est dessinée par le législateur. Alors, on peut bien sûr dire, contester l'incrimination. On peut sans être négationniste, sans être antisémite, dire que cette incrimination pose problème, que le législateur aurait mieux fait de ne pas sanctionner pénalement la tenue de certains propos. Mais dans ce cas-là, la critique doit être, elle est mal dirigée. Le politiquement correct, le, c'est la censure. Si on veut faire cette critique aux ordonnances de données, il ne faut pas l'adresser au juge, mais il faut l'adresser au législateur. Et là, je crois qu'on se trompe de cible. On se trompe de cible. Alors, pour être tout à fait honnête, il est certain que quand le Conseil d'État dit ses propos d'incitation à la haine sont, pour résumer, sont pénalement répréhensibles, constituent une atteinte à la dignité, qui autorise, alors il ne dit pas c'est du référé, il dit manifestement, pas manifestement, etc., mais qui autorise l'intervention de police, la dignité, l'atteinte à la dignité, qui autorise l'intervention de police, si tout ce cheminement pour justifier l'intervention de l'autorité de police, c'est le Conseil d'État qui l'a construit. Il y a une part de construction. Je veux dire par là que le législateur n'a pas dit dans la loi, les incitations à la haine et les incitations à la discrimination constituent une atteinte à la dignité de la personne humaine et je les réprime pénalement. Donc ce petit plus, ce petit ajout qui consiste à qualifier ces propos, ces pénalement répréhensibles d'atteinte à la dignité, c'est l'œuvre, c'est la construction du juge. Et on comprend très bien, enfin très bien, moi c'est une hypothèse, mais ça me semble sûr, j'y crois, c'est que cette construction, elle sert à trouver un fondement à l'intervention de l'autorité de police. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Morsan-sur-Orge a été cité. Morsan-sur-Orge permet l'intervention de l'autorité de police en cas de risque d'atteinte au respect de la dignité, dans une acception totalement différente, mais c'est pas grave, on parle de dignité. La loi pénale interdit ses propos. Je vais, moi, juge, considérer que ces propos sont constitutifs d'une atteinte au respect de la dignité, et hop, le circuit, enfin tout refonctionne. Donc l'autorité de police, pouvant agir au nom de la dignité, peut réprimer, enfin peut prévenir de la profération de ses propos. Donc il y a une part de construction. Mais alors là, elle ne me choque pas. Le lien entre dignité et discrimination, c'est un lien qui existe que le droit positif par mille et une manifestations a déjà établi ce lien entre discrimination et atteinte à la dignité. Donc que le juge des référés rattache à l'infraction, au risque d'infraction pénale, ce type-là de risque d'infraction pénale, une atteinte à la dignité pour fonder les pouvoirs de police, je ne trouve pas ça liberticide. Ça ne me choque pas. J'ai bien réfléchi, non, ça ne me choque pas. Troisième motif, la prévention de l'infraction pénale. Alors, c'est là qu'effectivement, ça grince. Ce motif, il est absent dans les ordonnances du 10 et du 11. Les ordonnances du 10 et du 11 parlent, elles évoquent les propos répréhensibles et l'infraction pénale. Il y a un bain d'infraction, ça baigne dans l'infraction pénale, cette affaire, aussi dans les ordonnances des 10 et 11 janvier. Mais on ne retrouve pas dans ces ordonnances cette formule qui est écrite telle quelle dans l'ordonnance du 9 janvier. Il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Je comprends qu'on soit sonné. C'est extrêmement brutal et ça, je l'admets totalement. Et on en a déduit... Et je comprends qu'on les déduit. On en a déduit une révolution dans le régime libéral des libertés. Le régime libéral des libertés, qui réprime l'infraction pénale, mais qui ne la prévient pas. Bon. Alors, est-ce si révolutionnaire que ça? Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que je dis que c'est bien. Hein. Je le dis d'emblée. Ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire, ce n'est pas totalement nouveau, c'est un peu nouveau quand même. Ce n'est pas totalement nouveau dans la mesure où ça a été inscrit noir sur blanc dans des décisions du Conseil constitutionnel, et ça a été décidé par le législateur, l'autorité de police administrative a déjà été, et de plus en plus, chargée de prévenir des infractions en matière de vidéosurveillance, en matière de système de détection des plaques d'immatriculation pour lutter contre le terrorisme, etc. Bon. Donc, et le Conseil constitutionnel, à l'occasion de recours contre ces lois, a été, de saisine de ces lois, a été conduit à dire que la prévention de l'infraction pénale constitue un but de l'autorité de police administrative. Il n'y a pas vu d'obstacle constitutionnel. Bon. Et alors, donc, ça c'est une chose. Le législateur l'a décidé, le Conseil constitutionnel l'a validé. Le Conseil d'État, lui aussi, l'a déjà admis. Il a déjà admis, dans des décisions sur le fond, que l'autorité de police pouvait intervenir pour assurer la sécurité des biens et des personnes, formule dont on a déduit qu'elle incluait la prévention de l'infraction pénale. Bon. Alors, cela dit, on n'est pas très avancé, parce que ce n'est pas parce que ça a déjà été dit que ce serait bien de le confirmer. Surtout que ça a été dit quand même assez discrètement. Enfin, en tout cas, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, en revanche, là, c'est ce qui est nouveau, c'est que l'infraction pénale dont il était question est dans la décision du Conseil d'État qui permet que l'autorité de police administrative prévienne, assure la sécurité des personnes et des biens et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette infraction pénale qui autorisait l'intervention de la police administrative, c'était une infraction pénale indéterminée. Alors, dans la pratique, c'est pas vrai. Dans la pratique, c'est faux. L'administration n'agit jamais à l'aveugle. Elle a toujours une infraction déterminée à l'esprit qui l'a conduit à mener ses contrôles. Mais officiellement, dans la forme, il ne s'agissait que d'infractions non déterminées. Or, dans l'affaire de Donné, il est clair et net que l'infraction dont il est question est une infraction déterminée. C'est l'infraction, ce sont des propos, tel et tel propos tombe sous le champ d'une incrimination pénale qu'a tenue telle personne. Donc c'est très clair, l'infraction elle est déterminée. Et c'est là, effectivement, que s'opère une bascule et que l'on brise un interdit qui est l'infraction déterminée, c'est l'affaire soit du juge pénal lorsqu'elle est commise, soit des autorités de police judiciaire quand elle va être dans les procédures notamment de flagrant délit, lorsqu'elle est sur le point d'être commise. Ce n'est pas l'affaire du juge administratif. Donc, effectivement, on brise un interdit. En même temps, et paradoxalement, c'est seulement si l'on exige de l'infraction qu'elle soit déterminée sur le point d'être commise que l'on apporte des garanties à l'intervention de l'autorité administrative. Parce que si l'autorité administrative... C'est pour ça que la formule est brutale, la formule de l'ordonnance du 9 janvier. Il appartient à l'autorité administrative de prendre des mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Dans la réalité, je pense, enfin dans la réalité de la décision, ce sont des infractions sur le point d'être commises. Et je pense que l'ajout est nécessaire pour justement éviter, pour cantonner l'administration et éviter qu'elle intervienne à l'aveugle, effectivement, sur un simple soupçon pour interdire à tout va. Donc il me semble que c'est l'infraction, oui, sur le point d'être commise, qui va être commise de façon évidente, qui seul pourrait justifier une intervention de l'autorité de police dans le champ de ce qui habituellement revient de la sphère pénale. Alors, donc voilà, pour moi, le noyau dur de ce qui doit véritablement être discuté, c'est est-ce que l'autorité de police administrative peut intervenir dans ce cas particulier d'une infraction sur le point d'être commise. Je comprends parfaitement que dans un esprit libéral, on souhaite que ce type d'instrument juridique soit retiré des mains d'un juge du droit positif, tout simplement. Je le comprends. Je ne sais pas si je suis pour ou contre, mais je le conçois complètement. En tout cas, c'est ça, à mon sens, le noyau dur de la discussion. Et alors, vu la difficulté qu'il y aurait à résoudre cette discussion, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne s'en tient pas, tout simplement, à l'atteinte à la dignité. Pour moi, ça permet seulement de réprimer, de faire un tri parmi les infractions pénales entre celles permettant ou non l'intervention de l'autorité administrative. Donc, ce ne sont pas toutes les infractions pénales qui entrent dans le champ de la police administrative. Et c'est la dignité en tant que, dans ce cas particulier, en tant qu'elle consiste en des propos pénalement répréhensibles. Voilà, je vous remercie.